Mimi, tu répètes toujours les mêmes histoires.
Normal, c'est vendredi, c'est le best-of.
Il y a des semaines où tout se ressemble un peu, on fait les mêmes trajets, on croise les mêmes gens, on répète les mêmes gestes sans réfléchir et pourtant, au milieu de tout ça, il y a toujours un petit quelque chose qui ressort, une phrase, une rencontre, un moment qui reste en mémoire sans qu'on sache trop pourquoi. Et c'est ça qu'on aime dans cette émission, ces instants qui surgissent au milieu du quotidien et qui d'un coup redonnent un peu de relief à la semaine. Alors pour ce best-of du vendredi, on revient sur ces moments-là qui ont marqué votre émission quotidienne. On se replonge dans des échanges qui nous ont touchés, des voix qui nous ont marqués ces dernières semaines et des petites surprises qu'on n'avait pas prévues mais qui font du bien. On s'installe, on est vendredi 28 novembre, je suis Margot et je vous propose de rester à mes côtés puisque l'agité du local commence maintenant. On écoute l'association Lecture en Tête, ils étaient à notre micro le lundi 17 novembre et nous parlaient de la nouvelle saison à venir. Écoutez.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Christiane Brémond et je suis coprésidente avec Antoine Huvet pour l'association Lecture en Tête.
C'est l'ouverture de la nouvelle saison pour Lecture en Tête. Vous avez évoqué une année de rigueur budgétaire. Comment est-ce que vous avez réussi à maintenir une dynamique malgré les baisses de subventions? Et est-ce qu'on peut rappeler à quelle échelle les baisses de subventions régionales impactent l'association?
Oui, alors donc on a appris, c'était il y a un an, hein, une baisse, enfin l'arrêt total de la subvention de la région, ce qui représente une pour nous 16% en moins sur notre budget global de l'année, et ça nous a obligés bien sûr à revoir nos actions et à faire un choix, une sélection, et un choix qui a été douloureux, hein, je veux le dire, parce que c'est jamais de gaieté de cœur qu'on abandonne des actions. Ça nous a obligés aussi à peut-être à se réinventer, à réfléchir à nouveau à ce qu'on met en place. Le premier secteur impacté, c'est les rencontres d'auteurs en cours de la saison, puisque auparavant, on avait sur l'ensemble de la saison un certain nombre d'auteurs invités sur Laval, agglo, mais aussi sur l'ensemble du département. Et c'était le premier poste qui a été impacté parce qu'on n'avait pas toujours forcément le public en nombre et il fallait faire des choix. Donc, c'était le premier choix fait. Ensuite, le deuxième choix, ça a été la plaquette, les plaquettes, puisqu'en fait, on est sur une seule plaquette au lieu de deux. On avait une plaquette qui présentait l'ensemble de la saison, avec toutes les actions, et ensuite une plaquette pour la sélection des 18 premiers romans. Et là, maintenant, on a regroupé toutes ces actions sur une seule plaquette, qui est éditée, imprimée par la ville de Laval.
Anne-Sophie Denoux, je suis programmatrice et coordinatrice de projet à Lecture en Tête.
Alors, on connaît l'association pour le festival, principalement du premier roman, qui fêtera sa 34e édition en mars. On y reviendra dans l'année, mais il y a encore cette année, donc 18 primo romans de sélectionnés.
Oui, chaque année, il y a 18 premiers romans sélectionnés qui sont le socle de la programmation du festival, donc 16 premiers romans dit adulte et deux premiers romans ados. Et bien entendu, après la sélection, l'annonce de cette sélection de premiers romans, les 18 auteurs sont invités à nous rejoindre au prochain festival. Alors après, des fois, ils peuvent tous être présents, des fois non. Mais voilà, en tout cas, la programmation du festival, elle se construit autour de cette sélection de premiers romans.
Et ce qu'on peut dire quand même sur cette sélection, c'est que ça représente 40 bénévoles, 40 lecteurs qui, pendant 9 mois, c'est ça, ont lu 161 romans, premiers romans. Vous lisez tous les romans que vous recevez?
Alors, on écrit aux éditeurs pour recevoir les premiers romans. Cette année, on en a reçu 161. Ils sont mis en lecture donc auprès de nos lecteurs, lectrices bénévoles. Cette année, il y a une quarantaine de bénévoles qui ont joué le jeu, c'est-à-dire qui lisent des premiers romans. Alors, chaque lecteur ne lit pas les 161, mais les 161 titres ont été lus, ont eu des fiches de lecture. Voilà, après chaque lecture, il y a une petite fiche de lecture, il y a des réunions. L'objectif, c'est de passer de 161 premiers romans à 18. Alors, ça ne se fait pas comme ça en un seul coup. C'est 9 mois de lecture, une réunion par mois, donc il y a à peu près 10 réunions, de débats, et pour à la fin n'en retenir que 18.
Alors bonjour, moi je suis Alexia Lemoine, la médiatrice de l'association.
Est-ce qu'il y a des thématiques qui se dégagent particulièrement cette année ?
Alors oui, cette année on retrouve le roman social. En fait, ce qui pas, je dis on retrouve, mais c'est pas très très fréquent en fait sur notre sélection, où il sera vraiment question de l'engagement, voilà, ou comment être fidèle à ses convictions, à ses valeurs, et puis comment faire quand il y a des rapports de force. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez présent sur un certain nombre de romans. Voilà, alors parfois c'est le sujet global du livre, d'autres fois c'est évoqué, mais ça fait vraiment partie des thématiques qu'on retrouve. Il y a aussi, j'allais dire encore et toujours, le roman d'apprentissage, où il sera question d'adolescence, avec les choix, voilà, les premiers choix qu'on fait dans la vie, et puis qui nous orientent pour l'avenir, en fait, hein, qui peuvent être parfois décisifs. On a la mémoire, avec cette nécessité de mettre des mots, en fait, sur l'histoire personnelle, sur l'histoire intime. Donc ça parle de deuil, mais ça parle aussi d'amour. Donc voilà, toujours la mémoire. Et puis enfin, on peut parler de la nature, qui est très présente. Alors ça, cette année, dans nos romans, la nature, avec ce que ça porte de sauvagerie, mais aussi d'instinct, donc plutôt des choses relativement positives. Le fait d'écouter aussi son inconscient, la dimension onirique aussi, qui est très présente dans la nature, parce que la forêt, c'est aussi tout un imaginaire, voilà, avec tout ce qui peut s'y passer. Donc là, c'est vraiment les principales thématiques, mais évidemment, il y a plein d'autres choses à découvrir dans cette sélection.
Cette année, ce qui est important de noter, c'est que la résidence est maintenue, la résidence d'auteur.
Oui, on a voilà, la résidence d'écriture en Mayenne est maintenue, et c'est Chloé Ronsin-Lematte que nous accueillerons du 1er décembre au 12 avril prochain. Chloé Ronsin-Lematte, qu'on avait accueillie en 2024 au Festival du premier roman et des littératures contemporaines pour son premier roman Anna Partout, qui est un roman assez noir et trash autour de notre rapport à la réalité et au virtuel, à l'heure des réseaux sociaux, et elle sera en résidence pour l'écriture de son deuxième roman.
Ce qu'il faut rappeler à l'auditeur de l'autre radio, qui le sait sans doute, c'est qu'il y a une fidélité des auteurs, puisqu'en fait vous les accompagnez sur du long terme. C'est important, c'est essentiel pour la carrière des auteurs.
Oui, parce qu'une fois qu'on les a repérés pour leur premier roman, ce serait dommage de s'arrêter là. L'objectif, c'est, avec ce festival, c'est de repérer les auteurs de demain. Et donc, on les suit après le premier roman. Leur deuxième roman intègre obligatoirement notre prix littéraire du deuxième roman. Ce sont des auteurs à qui on propose la résidence d'écriture en Mayenne, puisque les auteurs qu'on accueille n'ont pas publié plus de 5 romans. Donc, ça reste un soutien aux jeunes écrivains. Et puis, ce sont des auteurs, quand ils sont à 3, 4, 10 romans parfois, ou même plus, qu'on réinvite dans le cadre de la saison ou dans le cadre du festival. Voilà, ce sont des auteurs que l'on suit, on est fidèles, et ils nous sont aussi fidèles, puisqu'ils reviennent assez facilement à Laval.
Cette année, toujours le prix littéraire du deuxième roman, avec une nouveauté, c'est une annonce publique.
Oui, on a voulu... On trouvait que l'annonce publique du ou de la lauréate était assez confidentielle, et donc cette année l'annonce sera publique. Elle aura lieu juste après les délibérations du jury final. Donc le jury final, ce sont 11 membres entre des lecteurs, lectrices et des auteurs et autrices, et l'annonce publique aura lieu au Théâtre de Laval, dans le hall, hein. Pas dans la grande salle, mais dans le hall, à 15h, et elle est ouverte à tout le monde. Et on profitera de la venue de ces auteurs jurés pour organiser une petite table ronde, donc avec Carole Martinez, Sœur Chalandon, Yaria Belascri, Karim Katan. En fait, ce sont voilà, 4 auteurs que l'on suit depuis le début et qui sont à nos côtés depuis maintenant pas mal d'années.
Et alors, la nouveauté aussi cette année, c'est que c'est Lecture en tête qui forme le jury.
Oui, cette année, on a... Alors, le lancement du prêt a lieu le 13 septembre dernier. Et lors du lancement du prix littéraire du deuxième roman, il y a un temps de formation, d'information auprès des lecteurs jurés, puisque chaque année, le jury est renouvelé. Et cette année, pour diverses raisons, on a animé ce temps de formation, d'information. Voilà, on est fort de 15 années d'expérience autour de ce prix, voilà, entre les témoignages des jurés et des différents critiques littéraires ou journalistes qui se sont succédés pour animer ce temps de formation. Donc voilà, on s'est enrichi de tout ça pour nous l'amener cette année.
Une rencontre professionnelle, un temps à destination des bibliothèques et un temps, ces deux temps différents, sont aussi organisés cette année.
Oui, alors c'est vrai, on a une saison un peu moins étoffée que d'habitude parce qu'on a décidé qu'on n'inviterait pas d'auteurs tout au long de l'année pour des questions budgétaires dans un premier temps, mais aussi pour prendre le temps de repenser notre projet associatif. Et ça nous a permis aussi de prendre le temps de travailler sur ces temps d'accompagnement des publics, alors qu'ils soient professionnels ou bénévoles, ces temps de formation ou d'information. Et donc la rencontre professionnelle, comme il va y avoir aussi un temps de formation autour de comment valoriser une sélection dans sa bibliothèque ou comment valoriser la bibliographie d'un auteur aussi qu'on accueille. Donc voilà, on a pris ces temps disponibles pour réfléchir et comment encore mieux accompagner les professionnels et les bénévoles.
Une évolution toujours, enfin ça existait déjà l'année dernière, c'est sur ce qui est proposé aux scolaires à cause des baisses de la région. Finalement, il y a toujours ce qui est proposé aux scolaires, c'est sur le temps du festival qui est toujours un peu en suspens cette année, je crois.
Oui, dans tous les cas, il y a une épée de Damoclès sur pas mal de nos projets, mais surtout sur le festival puisque c'est le gros événement et donc le gros budget. Donc on souhaiterait cette année mettre à nouveau en œuvre les ateliers d'écriture, les ateliers de mise en voix et en espace, donc ateliers d'écriture animés par des écrivains, les autres ateliers de mise en voix et en espace par des comédiens, comédiennes, auprès des collégiens et lycéens que nous accueillons les deux premiers jours du festival. On y croit, on a envie de les mener au bout, mais ça va dépendre des aides qu'on aura. Donc on maintiendra les rencontres entre auteurs et scolaires, mais on espère pouvoir mettre en place quand même quelques ateliers pour avoir vraiment deux journées d'immersion, enfin d'immersion de ces jeunes dans le livre, la littérature. Et puis c'est aussi une façon de sortir du texte, donner une autre dimension au texte. Ça révèle certains jeunes hein, par le biais de l'écriture ou de la mise en voix. Ça, voilà, ils sortent de leur zone de confort, il se passe des choses. Enfin, c'est très difficile à expliquer, c'est des moments qui sont intenses à vivre. Voilà, on va tout faire pour les maintenir, mais c'est compliqué dans ce contexte actuel.
Et comme Lecture en tête veut s'adresser toujours au plus grand nombre, il y a toujours le concours d'écriture pour les jeunes.
Oui, un concours d'écriture destiné aux 15-25 ans. Donc c'est le concours d'écriture d'un début de roman. Donc c'est les trois premières pages d'un roman. Et cette année, la thématique, c'est « Nous avons pris le dernier train ». Voilà. Après, c'est ouvert à l'imagination de tous ceux qui, toutes celles et ceux qui sont prêts à nous envoyer leur texte. Mais c'est un projet qui, on va dire, qui nous coûte rien. Voilà, c'est juste du temps que l'on donne et du temps vraiment adressé aux jeunes. Et on reçoit pas mal de textes chaque année. On invite les finalistes. Il y a toujours une quinzaine de finalistes à venir nous rejoindre au festival pour l'annonce des lauréats du concours. Et les lauréats assistent à un temps d'échange avec les auteurs jurés du concours. Donc, ils ont 4 ou 5 auteurs qui ont lu leur texte hein, et qui vont leur donner des conseils, des outils pour poursuivre l'écriture ou de leur texte ou déjà continuer à écrire tout simplement. Et c'est important voilà, d'offrir ça aussi aux jeunes et de prendre en compte aussi leur... voilà, ces premiers textes voilà, qui peuvent être le début de quelque chose.
Et pour terminer, il y a des ateliers lecture pour accompagner le public d'y empêcher ou éloigner de la lecture.
Oui, ce sont des ateliers lecture à destination de structures sociales, médico-sociales ou d'insertion. Lecture en tête organise ses ateliers depuis 25-30 ans. La lecture à voix haute et collective d'un premier roman, donc au sein d'une structure même qui en fait la demande. Et on accompagne en fait ces publics-là dans la compréhension du texte. De l'alphabétisation, c'est vraiment la compréhension du texte, sur les débats d'idées, sur s'écouter, être bienveillant. Donc c'est sur une dizaine de séances entre janvier et le festival. Ce sont des bénévoles qui animent ces ateliers. Sans eux, il ne pourrait pas y avoir d'atelier. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est la rencontre avec l'auteur lu au moment du festival du premier roman des littératures contemporaines. Et c'est c'est ces ateliers-là qui se déplacent au festival avec les autres publics et qui viennent rencontrer leur ou leurs auteurs.
On le sait, l'ensemble du milieu associatif, culturel, est aujourd'hui en difficulté. Qu'est-ce qui compte après autant d'années apporter la littérature en Mayenne? Qu'est-ce qui compte encore particulièrement pour vous? Quels sont les défis, les espoirs peut-être pour l'avenir?
Alors c'est Lecture en tête, c'est un projet associatif qui a été très très bien pensé dès le début. Et ça, c'était pas grâce à nous. C'était là avant, ça a été très très bien pensé. Donc on essaye de maintenir d'une façon ou d'une autre l'ensemble de nos projets, même si il va falloir leur proposer une autre temporalité, de les travailler différemment, mais de les maintenir. C'est ça qui est important pour nous. Et ce que l'on va essayer de développer aujourd'hui, alors l'événementiel, compliqué de le développer puisque ça a un coût, mais c'est de développer et les publics et tout notre travail de terrain pour faire venir encore plus de monde au festival, mais faire aussi lire de la littérature contemporaine, des jeunes romanciers qui ne sont pas médiatisés. C'est sensibiliser les publics, sensibiliser le territoire mayennais à cette jeune littérature et aux événements que l'on organise, qu'on soit grand ou petit lecteur. C'est surtout... Le livre est prétexte, en fait, au débat d'idées, aux thématiques contemporains. Les auteurs, les autrices que l'on met en avant, ce sont des artistes qui posent un regard sur notre société. Et c'est en fait de ça dont on parle pendant le festival et puis sur nos autres événements. Comment fonctionne la société aujourd'hui, comment chaque individu peut s'y retrouver. Ce sont des thèmes sociétaux. Et on va essayer vraiment de développer les publics pour créer toujours cette dynamique au cœur même de l'association.
Pour retrouver l'ensemble de la programmation, on parlait de plaquettes, mais ce sera aussi disponible sur le site internet.
On a une brochure qu'on peut retrouver sur le site, notre site internet lectureentête.fr, aussi sur nos réseaux sociaux. Une saison qui est peut-être moins dense que d'habitude, mais qui reste riche et on y a donné toute notre cœur et notre dynamisme pour en faire quand même encore un temps fort, malgré le contexte actuel.
Tu m'entends?
Toujours, Mimi.
Avant de retrouver les coups de cœur de la librairie M. Lirangeau, on fait une pause musicale avec Jane. On écoute The Fool.
Walking on the wire from Earth to Venus ground, playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in outer space, I should have known better. A rain of fiery rocks, the sun up the dark.
star.
Château-Gontier vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour à toutes et à tous. Le livre dont je vais parler aujourd'hui, c'est le nouveau roman de Franck Bouys. Oui, l'auteur de Née d'aucune femme, qui reste peut-être à ce jour son meilleur livre et son plus gros succès. Franck Bouys, c'est une plume. Depuis quelques années, il offre ses livres à Albin Michel. Eh bien là, c'est un nouveau livre dans cette maison d'édition. Il s'appelle « Entre toutes ». Et un peu comme dans le thème de cette rentrée littéraire, ça va être un roman familial. Franck Bouys a été extrêmement marqué par sa grand-mère. Et ce livre va être un éloge de sa grand-mère. Sa grand-mère naît en 1912 dans une ferme isolée, on va dire sans doute au centre de la France. C'est pas vraiment expliqué. Et c'est une femme qui va connaître des hauts et des bas. C'est ça la vie. Ça sera ça aussi l'histoire de la France, puisque il y aura une Première Guerre mondiale, il y aura une Deuxième Guerre mondiale. La vie dans les campagnes est très dure. Mais en même temps, c'est un livre qui n'est jamais empathique. Il est là pour porter l'esprit d'une femme qui est portée par une force. Et c'est cette force qu'on sent dans le livre. J'ai beaucoup aimé la pudeur avec laquelle Franck Bouys parle de sa grand-mère. Déjà, Franck Bouys s'efface complètement dans ce livre, ou carrément, quasiment complètement, à part une introduction et la conclusion, pour vraiment laisser place à ce fruit dont il est peut-être aussi originaire, Franck Bouys. Ce fruit, c'est la volonté, c'est l'honnêteté, c'est la force. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est presque un livre, presque un roman de terroir, tellement on est dans la terre, tellement on est dans cette ferme avec cette femme, avec sa famille. C'est un livre qui paraît anodin et qui pour moi m'a beaucoup touché, parce que peut-être qu'il m'a fait aussi un tout petit peu penser à ma grand-mère maternelle. Voilà, je vous conseille de lire « Entre toutes » de Franck Bouys aux éditions Albin Michel.
Retrouvez « Aime lire » en joue, 10 place Paul Doumer, à Château-Gontier, et sur l'autre radio.
On quitte les rues pavées de Laval et on revient sur nos pas pour parler des mains, celles qui travaillent. Corentin a passé du temps dans l'atelier tissage de la SCOMAM et il nous ramène un morceau de matière, de rencontre, un morceau de son, puisqu'il a voulu y faire là-bas son reportage. Écoutez.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un reportage un peu particulier sur un sujet que peu de personnes connaissent, le métier à tisser. Pour ce faire, je me suis rendu à l'atelier de tissage présent à la SCOMAM à Laval. Je vous laisse donc avec ce reportage nommé « Un métier pour tisser des liens ».
Je suis Karine, je tisse depuis 35 ans. J'ai eu envie de tisser grâce à l'école maternelle où j'avais fait un petit tissage avec le dessus-dessous. On avait pris le père-impair et je m'étais dit quand je serai grande, je tisserai. Et j'ai attendu 30 ans, l'âge de 30 ans, pour me mettre à tisser. Donc voilà, ça fait 35 ans que je tisse.
Pour les auditeurs de votre radio qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire le fonctionnement et à quoi sert un métier à tisser ?
Alors, le métier à tisser sert à faire du tissu, le nom l'indique, pour après en faire soit des écharpes, des étoles, des vêtements, des tentures, des dessus de lit, ce qu'on a envie.
Depuis combien de temps l'atelier de tissage de la SCOMAM existe-t-il ? Est-ce que vous savez ? Ou depuis combien de temps l'avez-vous rejoint, vous, personnellement ?
Moi, je l'ai rejoint depuis une vingtaine d'années. Et avant, c'était Nicole Ragot qui l'avait créé. Elle a bien fait depuis une trentaine d'années avant moi.
Le métier à tisser donc permet de tisser, comme on l'a dit, mais est-ce qu'il existe plusieurs types de métiers à tisser par leur fonctionnement ?
Le métier à tisser, c'est toujours le même fonctionnement. C'est des cadres qui se lèvent avec des fils qui se lèvent. On appuie sur des pédales, ça fait lever des fils ou baisser les fils. On passe la navette et le tissu se forme comme ça. C'est la même technique que des métiers industriels, mais seulement nous, la navette, on la passe à la main. Tandis que dans les métiers industriels, c'est soit des jets d'air, soit des jets d'eau. Et donc, évidemment, on va beaucoup moins vite.
Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans le métier à tisser et le tissage en règle générale ?
Alors, dans le tissage en général, ce qui me plaît, c'est que on fait des pièces uniques. Donc, dans le tissage, on peut mettre ce qu'on a envie de mettre, aussi bien donc, de la laine, du plastique, du cuir, toutes sortes de laines, de l'alpaga, du lama, du lapin, du chèvre, de la laine de mouton, du chameau, du synthétique. Et voilà, ce qui me plaît, moi, c'est les différents matériaux, de la dentelle, des draps que l'on coupe en ruban, des vêtements que l'on recoupe aussi en ruban pour en refaire du tissu.
Et pour les petits curieux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez si ça pouvait les intéresser de venir ? Qu'est-ce que vous leur conseillerez ?
De venir nous voir, de voir les 15 métiers que nous avons la chance d'avoir dans un grand espace et de découvrir notre ambiance autour du fil.
Je m'appelle Anne et je viens ici à l'atelier tissage depuis l'année dernière.
Et qu'est-ce qui vous a attiré dans l'atelier de tissage ?
Le fait de pouvoir toucher de la matière, toucher de la laine, et puis d'être aussi entre personnes qui partagent la même passion.
Et est-ce que vous avez déjà fait quelques réalisations dont vous aimeriez nous parler ?
Oui, la première réalisation, ça a été, c'est tout début ici, ça a été ma vie. J'ai retissé ma vie. Et puis la dernière que j'ai faite, c'était fait à partir des t-shirts et des vieux vêtements de mon frère.
Ça vous a pris pas mal de temps. Comment ça se passe ?
Il a d'abord fallu laver les vêtements, faire des bandes de tissu dans les t-shirts, les enrouler en pelote, puis après les tisser ces bouts de tissu sur une chaîne qui était déjà installée sur le métier à tisser.
Je suis Véronique, je suis à l'atelier tissage depuis le mois de décembre parce que je me suis inscrite depuis ma retraite et parce que ça me tentait depuis longtemps et que j'ai voulu essayer une nouvelle activité.
Là, vous êtes en train de réaliser quelque chose, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus peut-être ?
Alors, j'ai déjà fait deux pièces en tissu. Je me suis déjà fait un coussin, un sac. J'ai déjà tissé une autre pièce pour me faire une veste. Et puis là, je voudrais essayer de me faire une jupe. Je voudrais essayer quelques vêtements.
Merci à tous pour votre attention, en espérant que ce reportage vous ait plu et vous ait donné envie de vous intéresser au métier à tisser. Ce reportage, ainsi que l'ensemble de l'émission, sont à retrouver sur l'autre radio en podcast. Et je vous dis à bientôt sur nos ondes.
Et maintenant, c'est au tour de Magnette, comme chaque semaine, une petite chronique qui attrape un morceau de réel et nous le raconte à sa manière. Écoutez.
La chronique de Magnette. Sur l'eau.
Bonjour. Tu connais le Bourbonnais ?
Bon, on ne va pas en faire un fromage. Disons, pour simplifier, que c'est au nord de l'Auvergne. J'y suis né, et je peux te dire que là-bas, le plateau de fromage, c'est sacré. Mon père n'aurait jamais pu concevoir un repas sans salade fromage. Je ne vais point, ici, t'énumérer tous les fromages d'Auvergne. Entre parenthèses, François Morel a pondu une petite chanson qui n'est autre qu'une liste de fromages. Faut le faire. Ça sonne vachement bien. Juliette, que j'aime beaucoup, m'a fait sourire en disant « C'est pas facile de faire une bonne chanson con. » Et là, c'est réussi. Bon, et sur le plateau de fromage, pas auvergnat pour un chou, trouvez place le porc salut. Si on m'avait dit alors que je m'en approcherais en venant vivre en Mayenne. C'était une tradition culinaire chez les moines trappistes de l'abbaye cistercienne. Dans les années 60, un slogan publicitaire a frappé fort. « Si c'est le vrai porc salut, c'est écrit dessus !» Comme on pourrait dire aujourd'hui, « Si c'est la vraie, l'autre radio, c'est écrit dedans !» Il y a belle lurette que les moines ne mettent plus la main à la pâte. Mais, depuis 1959, le succès a vite dépassé leur capacité de production. Cette année-là, donc, la Société anonyme des fermiers réunis reprend le flambeau. Puis, en 2012, le groupe Bell se charge du morceau. Mais les moines avaient commencé en 1816, avant-hier, quoi. Pour leur papille, bien sûr, mais pour des échanges aussi. Et le frometon tourne si bien qu'en 1852, la communauté religieuse reçoit une médaille de bronze à Laval. Et c'est reparti de plus belle. Expo universelle de Paris. En 1875, le révérend père Dom, Henri, d'Entrammes, à deux pas d'ici, monte à Paris, comme on dit, pour faire goûter le porc-salut à un négociant. Bingo! Quand le type affiche « Arrivage des fromages », toute la cam s'écoule en moins d'une heure. Voilà comment un peu partout dans le monde, ce fromage, médaille d'or en 1901 à Londres, a séduit un nombre fou de palais. André Fournier écrit dans un ouvrage universitaire « La quantité de lait traité à la fromagerie en 1902 est estimée à 95 000 litres par mois en moyenne et jusqu'à 1 500 000 litres les bonnes années. » Alors là, moi, je souris en imaginant le tout début de l'histoire du porc-salut. Quelques tonsures aux yeux pétillants, les bras dans la pâte, complètement shootés et heureux d'améliorer le bijou. Allez, frère Justin, goûtez-moi ça. Ah, alors là, on frôle le péché. Mmh. Ah, j'allais te dire salut, mais non, topette. Ah oui, c'est François Morel. Ouais. Il chante une... Enfin, il chante... Oui, c'est une... elle n'est pas très longue, fallait. Mais il n'énonce que des noms de fromage.
Coulommiers, Époisses, Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livarot, Reblochon, Abondance, Mont d'Or, Crottin, de Chavignol, Chabichou, du Poitou, Pyrénées, de Brebis, Vacherin du Haut-Doubs, Camembert, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Sous-Maintrain, Roux-de-Brie, Tête de Moine, Mimolette, Boursin, avec 60% de matière grasse.
tu vois Juliette, la lunette là, qui joue du piano, elle dit, c'est pas facile de faire une vraie bonne chanson con. Et lui, il a réussi, Morel, François Morel, il a réussi. Et c'est vrai que ça sonne bien.
La chronique de la bête. Sur l'eau.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Lénaïque Foulzour qui signe la musique originale de cette émission. Votre émission quotidienne s'arrête ici, mais ça continue, bien sûr, sur les ondes de l'autre radio. À 19h, votre soirée commence avec l'émission Dance Hall Social Club pour vous plonger dans des sucreries musicales du passé. Tout de suite à 13h, ce sera Cinérama, l'émission qui vous propose de retrouver, via des chroniques et des interviews, les nouveautés du petit et grand écran. Avant de se quitter, on jette un coup d'œil sur ce qui nous attend. C'est week-end samedi à 11h, Instant Europe revient et nous parlerons ensemble de cybersécurité. À 13h, Rock Dreams fera un focus sur l'affaire Louis Trio. Et alors, pour un dimanche un peu plus sportif, à 11h, Benoît et toute l'équipe de Sport Épique prendront l'antenne pour réchauffer le studio de l'autre radio de leur bonne humeur. Le week-end se terminera toujours musicalement, en nous faisant voyager pendant 2 heures avec donc Jazz Attitude qui prendra l'antenne avec Cyrali à ses manettes qui ouvre son micro à 21h. Moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. D'ici là, profitez du week-end, reposez-vous et s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, tu peux parler normalement maintenant, c'est fini.
Mais Mimi, je parle toujours normalement.